Les dessous de l'Infox. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale.
Les dessous de l'Infox.
Le passé est une époque propice à l'Infox. Plus il est lointain et donc difficile à cerner et à comprendre, et plus il est victime d'hypothèses fantaisistes, souvent proclamées comme des vérités inébranlables. L'archéologie est donc une cible de choix pour ceux qui produisent des théories fumeuses, avec l'ambition de résoudre les grands mystères des temps anciens. On en parlera avec Émilie Briand, elle est archéologue, conservatrice du patrimoine en archéologie, cofondatrice d'une association de lutte contre la désinformation dans les domaines de l'archéologie. Une photo qui circule et qui prétend montrer le président de la RDC devant la tombe de Jésus. Un faux, nous dira Monique Gomayag, journaliste à l'AFP Factuel, le site de vérification de l'agence France Presse, qu'on retrouve en fin d'émission. Mais tout de suite, la chronique, les dessous de l'Infox. Alors aujourd'hui, on a affaire à un soi-disant scandale sur les réseaux sociaux à partir d'une enquête publiée dans un journal médical britannique. Pfizer est épinglé pour la façon dont certains essais cliniques ont été conduits en amont de la mise sur le marché de son vaccin anti-Covid. Sophie Malibaud, Grégory Genevrier se sont penchés sur la question. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Alors on évoque un scandale. Qu'est-ce que dit cette enquête précisément, Grégory ?
Alors l'article du British Medical Journal paru ce mardi pointe du doigt trois laboratoires du groupe Ventavia au Texas chargés d'essais cliniques sur le vaccin Pfizer. Alors ils sont notamment accusés de falsification de données, de retard dans le suivi des effets indésirables et de mauvaises conditions de stockage des doses. C'est Brooke Jackson, une ancienne employée du groupe, qui révèle ces manquements et aussitôt les réseaux sociaux s'emparent du sujet avec le hashtag Pfizergate et très vite l'affaire débarque dans la sphère politique.
Avec le Pfizergate, nous sommes à la veille d'une déflagration planétaire. Un scandale mondial.
Alors au moment où Florian Philippot, candidat à la présidentielle, dénonce un scandale mondial, le Pfizergate affiche plusieurs milliers de mentions sur Twitter et Facebook. La tendance monte en flèche dans la journée pour atteindre rapidement plus de 200 000 mentions. Mais rien de planétaire. L'embrasement est avant tout franco-français et porté par la mouvance anti-vax. On observe d'ailleurs des signes d'amplification artificielle, Grégory.
Oui, puisqu'on remarque que de nombreux comptes bombardent les réseaux de posts avec le hashtag Pfizergate sans même commenter l'affaire. Ce ne sont pas des robots, mais bien une armée de tweetos mobilisés pour créer la tendance. Et puis il y a aussi tous ceux qui, par leurs commentaires, manipulent l'enquête pour lui donner une dimension qu'elle n'a pas. C'est le cas de l'agence de presse russe TASS qui titre « Les effets de Pfizer sont défectueux et falsifié. Et puis certains tweetos vont même jusqu'à évoquer la mise en danger de milliards d'êtres humains avec le vaccin. Une façon donc de généraliser les manquements alors que l'enquête cible en réalité un faible échantillon.
Mmh. Or, les essais cliniques de Pfizer en phase 3 concernent près de 44 000 participants dans 153 centres répartis dans le monde, c'est ça ?
Oui, alors les défaillances observées en effet portent sur un groupe de 1000 personnes, ce qui en soi n'est pas de nature à modifier le résultat global de l'essai clinique. On peut aussi s'interroger sur la qualité de l'enquête. On évoque une lanceuse d'alerte, mais c'est l'unique source à part quelques témoignages anonymes. Brooke Jackson, la seule citée nommément dans ce rapport, aurait passé 2 semaines dans l'entreprise avant d'en être licenciée. Quant aux documents cités, BMJ, que nous avons contacté, ce journal médical britannique, affirme ne pas pouvoir les dévoiler. Le public n'a donc accès ni aux photos ni aux enregistrements mentionnés dans l'enquête. Enfin, le sous-traitant incriminé affirme ne pas avoir été contacté par l'auteur du rapport. Au bout du compte, ces éléments paraissent un peu faibles pour conclure à un scandale planétaire. C'est peut-être l'une des raisons aussi pour lesquelles les grands médias ne se sont pas emballés aussi vite que les internautes.
Oui, d'autant que l'auteur Paul Tecker est assez controversé dans les milieux des sciences et du journalisme. Précisons que la procédure de relecture n'a pas été effectuée en interne. C'est explicitement précisé et le British Medical Journal nous l'a confirmé. L'article a fait l'objet d'une relecture par 2 experts extérieurs à la rédaction.
Alors depuis les faits constatés dans l'enquête en septembre 2020, les résultats obtenus à travers la vaccination, disons-le, ces résultats ont validé l'efficacité du vaccin. On ne sait pas à ce stade si les manquements dénoncés sont avérés. Pfizer et Ventavia, ainsi que les agences américaines et européennes du médicament, se penchent sur la question. Le respect du protocole lors des essais cliniques doit effectivement rester une affaire sérieuse.
Les dessous de l'Infox.
Sophie Malibaud, Grégory Genevrier, merci à tous les deux. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, François.
La science a bien du mal à imposer ses conclusions face à des théories fantaisistes, des hypothèses fumeuses parfois créées par des gens qui aiment prendre leurs désirs pour des réalités. L'archéologie n'échappe pas à cette règle et se trouve confrontée à des histoires imaginaires qui ont bien peu de rapport avec la réalité scientifique.
On en parle.
On en parle avec Émilie Briand, elle est archéologue, conservatrice du patrimoine en archéologie, cofondatrice d'une association de lutte contre la désinformation dans les domaines de l'archéologie, de l'histoire de l'art et de l'histoire. Bonsoir Émilie Briand.
Bonsoir.
Alors, quand on parle désinformation en archéologie, de quoi s'agit-il précisément? Quels sont les infox auxquels vous êtes confrontés?
Alors, on a plusieurs types d'infox. On va avoir de la désinformation qu'on peut qualifier parfois un petit peu d'ésotérique ou délirante. On entend parler des anciens, beaucoup des extraterrestres. Et puis, on va avoir aussi de la désinformation un petit peu plus sérieuse, dans le sens où on va transformer, instrumentaliser l'archéologie et l'histoire à des fins idéologiques.
Parlons des pyramides parce qu'elles fascinent particulièrement. Elles ont traversé les millénaires, leur construction défie l'imagination, souvent leur taille, le nombre, le poids des blocs de pierre utilisés, la précision de leur placement. On est confronté, semble-t-il, à des techniques mystérieuses, le transport des pierres par exemple. Est-ce que l'archéologie a réussi à comprendre comment ces pierres ont pu être transportées, placées à des grandes hauteurs par exemple?
Oui, alors il faut d'abord comprendre que la pyramide, finalement, c'est la forme architecturale de base au niveau géométrique, puisque vous avez une base qui est beaucoup plus large que la pointe. Donc, plus vous construisez large à la base, plus vous pouvez monter haut. Hein. On est vraiment sur du principe géométrique de base. C'est vraiment les types de constructions les plus faciles à mettre en place et il n'est guère étonnant qu'on retrouve des formes pyramidales ou en tout cas des monuments qui vont monter en hauteur dans les premières architectures de l'humanité.
Et le transport des pierres, alors, parce qu'il est souvent sujet à controverse, on va dire.
Oui, alors il y a eu beaucoup d'hypothèses et l'archéologie est une science humaine qui a besoin de faire des recherches, qui a besoin d'explorer et on va se baser sur des faisceaux d'indices. Alors ces dernières années, il y a eu quand même pas mal de découvertes qui ont permis d'avancer dans ces différentes hypothèses. On a retrouvé des rampes qui portent l'inscription de Khéops. Alors, on se doutait depuis un moment que des systèmes de rampes avaient utilisé, cependant, on les connaît encore mal. Donc, il va falloir encore peut-être faire des modèles, des essais, peut-être des reconstitutions, des expérimentations pour essayer d'y voir plus clair. Et puis, il faut bien avoir en tête aussi que les Égyptiens, c'est un peuple qui a laissé énormément de textes, énormément d'images. Ils documentaient absolument toutes les étapes de leur vie. On a retrouvé en 2013 un papyrus qui est en fait le journal de bord d'un inspecteur responsable du transport des pierres pour la pyramide de Khéops. Et dans ce journal de bord, il décrit précisément les trajets qu'ils effectuent par voie fluviale pour amener les pierres de la carrière jusqu'à Gizeh.
Donc on n'a pas affaire, c'est sûr, à une théorie de civilisation préhumaine ou extraterrestre qui aurait disposé de techniques performantes. Là encore, on est dans le domaine des hypothèses. Est-ce que les hypothèses sont un domaine d'investigation pour la science archéologique, ce type d'hypothèse de civilisation préhumaine ou extraterrestre?
Ce type d'hypothèse n'est pas abordé en archéologie, pas parce que l'archéologie ne veut pas l'aborder, mais tout simplement parce qu'en archéologie, on se base sur des faits. On part d'observations de terrain et ensuite on mène une enquête, hein, comme une enquête policière. Donc à partir du moment où on n'a aucun indice, aucun fait qui nous emmène vers l'hypothèse d'une civilisation préhumaine ou extraterrestre, de toute façon, on ne peut pas l'investiguer.
Autre information dont on ne sait pas très bien ce qu'elle vaut et qu'on nous répète souvent, les pyramides étaient des tombeaux et certains disent que ça ne serait pas vraiment des tombeaux de pharaons. Qu'est-ce qu'il en est exactement?
Les pyramides, c'est pas juste la pyramide. Il faut bien avoir conscience que quand on parle par exemple des trois pyramides du plateau de Gizeh, elles concernent trois pharaons différents et au pied de chaque pyramide, on a des grands complexes funéraires qui sont associés à cette pyramide. On a des pyramides plus petites qui sont des pyramides des épouses, on a des tombes, on a des temples funéraires. En fait, ce sont de véritables complexes funéraires et la pyramide est le tombeau central qui est au cœur de ces complexes.
On est donc face à des tombeaux de pharaons. Est-ce que la science archéologique amène systématiquement des réponses satisfaisantes à tous ces grands mystères du passé qui nous fascine tant?
L'archéologie apporte beaucoup de réponses, mais elle n'a pas réponse à tout, évidemment. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est finalement ça qui fait l'attrait aussi de cette discipline, c'est qu'on est en recherche permanente. Finalement, on mène une enquête qui prend des années, des dizaines d'années, et surtout, on fait appel à plein de disciplines scientifiques autres. C'est vraiment de la recherche pluridisciplinaire. Mmh. Et c'est ce qui fait le charme aussi.
Alors, il y a beaucoup de fausses informations qui courent sur les temps anciens. Et les archéologues utilisent un terme, d'ailleurs, pour désigner créer toutes ces informations fantaisistes, la pseudo-archéologie. Qu'est-ce que ce terme-là englobe, pseudo-archéologie ?
Oui, bah alors pseudo-archéologie, en fait, pseudo veut dire faux. Ce serait donc la fausse archéologie. On utilise d'autres termes et j'aimerais aborder du coup les termes qui sont utilisés par Jean-Pierre Adam, qui est un archéologue qui s'est beaucoup intéressé à l'Égypte. Lui, il parle d'archéomanie. L'anthropologue Jean-Loïc Lequelec utilise aussi le terme d'archéoromantisme. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que l'archéoromantisme nous renvoie directement au XIXe siècle, l'époque où toutes les thèses finalement que l'on retrouve aujourd'hui sur les sites internet sont nées dans ce XIXe siècle, très ésotérique, très porté sur le mystique et les mystères de manière générale.
Lors d'une conversation précédente, vous dénonciez les dérives racistes qu'on peut observer, je dirais, dans ces hypothèses de pseudo-archéologie. Quelles sont-elles ?
Alors oui, il y a certaines, effectivement, hypothèses de pseudo-archéologie qui, quand on gratte un peu la surface, quand on gratte le vernis, on se rend compte que bien souvent, bien en dessous, ça sent pas très bon. Et c'est vrai que si on prend un peu de recul et qu'on essaye d'analyser, par exemple, je vais donner l'exemple des pyramides mésoaméricaines que l'on retrouve au Mexique et dont la construction date des 1er, 2e siècles de notre ère. Il y a beaucoup d'hypothèses qui disent que les civilisations mésoaméricaines ont été aidées par les astronautes, les extraterrestres. Mais à la même époque, en Europe, on a le Colisée qui est en construction. On a les voies romaines, on a l'Empire romain, et pourtant, personne ne dit qu'il y a une intervention divine ou une civilisation préhumaine qui aurait guidé Rome. Donc, quelque part, c'est un petit peu regarder ces civilisations non occidentales comme si elles n'avaient pas été capables de construire leurs propres monuments, alors qu'en Occident, ça ne pose pas de soucis. Donc, effectivement, il faut savoir prendre du recul aussi, parfois, et regarder les choses avec quand même pragmatisme.
Est-ce que cette pseudo-archéologie réussit finalement à s'imposer face à l'archéologie scientifique rigoureuse qui ne s'appuie que sur des preuves intangibles ?
Alors non, elle ne s'impose pas. Hein. Il faut savoir, dans le milieu professionnel de l'archéologie, qui ne regroupe pas que les archéologues d'ailleurs, puisque comme je le disais tout à l'heure, on travaille en pluridisciplinaire. Donc on travaille aussi avec des historiens de l'art, et puis toutes les professions plus scientifiques qui vont être les méthodes de datation ou d'analyse. Il y a plusieurs regards en fait. Certains collègues regardent ça de haut en disant « Bon, bah, c'est fantaisiste, et puis après tout, si des gens veulent y croire, qu'ils y croient, ça ne dérange pas. » Mais on se rend bien compte ces dernières années que sur Internet, ce type d'hypothèse foisonne, et on le voit bien quand on parle avec le grand public, quand on fait des conférences et qu'on échange, que ça nous revient de plus en plus régulièrement.
Ouais, je vous pose la question, parce que quand on fait des recherches effectivement sur Internet, on constate à quel point les documentaires, vous appelez ça des documenteurs, qui soutiennent les thèses un petit peu farfelues, sont nombreux, souvent bien faits d'ailleurs, parfois même convaincant, alors que les travaux scientifiques, universitaires sont quasiment introuvables. Comment vous expliquez-vous que l'archéologie scientifique communique aussi mal le résultat de ses travaux ?
C'est vrai que quand on s'attaque à un sujet scientifique, il faut bien imaginer qu'on a des sujets qui sont parfois très pointus, pas forcément adaptés au grand public. Donc la communication, elle est difficile, si vous voulez, du sujet d'étude vers le grand public. Il faut que ça passe vers des médiateurs, des vulgarisateurs. Et c'est vrai que, un peu comme toutes les sciences, on a un peu tous raté le coche des réseaux sociaux il y a 15 ans. C'est-à-dire que ce n'était pas considéré comme un outil de communication, forcément, pour partager les connaissances. Et puis, dès qu'il y a un vide, on sait bien, le vide se remplit très vite, et c'est ce qui s'est passé.
Je voudrais finir avec un dernier exemple d'infox archéologique. On en a évoqué quelques-uns au début de l'émission. Je voudrais, par exemple, qu'on parle de ce squelette de l'homme du Jura. C'est la photo d'un squelette, d'un homme géant. Expliquez-nous pourquoi est apparue cette photo et comment elle a pu devenir une infox extrêmement persistante.
Oui, alors on a là cette photo de l'homme du Jura, et puis on en a aussi d'autres un peu partout dans le monde qui sont similaires. On a aussi l'exemple du géant d'Arabie saoudite. En fait, ce sont des photomontages. Dans le cas de l'Arabie saoudite, par exemple, ça a été lancé sur concours sur Internet, et en fait, c'est la photographie s'est retrouvée à circuler derrière, et effectivement, elle se retrouve réutilisée sur des sites qui propagent des fausses informations sur l'archéologie pour dire « Regardez, il y avait bien une civilisation préhumaine », mais nous sommes bien sur des photomontages. On peut faire le lien avec les fameux photomontages du 1er avril que l'on voit circuler dans la presse. C'est un peu du même acabit.
Beaucoup de travail donc pour votre association. Pourquoi se lancer dans une mission si difficile d'ailleurs face à des gens manifestement habités par par une foi, une croyance forte.
C'est pas tant une lutte contre ces gens qui ont une croyance forte, c'est plutôt pour une meilleure information du public. Nous sommes trois cofondateurs de cette association. Il y a Faustine Boulet qui est égyptologue et Alexis Sédoux qui est doctorant en archéologie et histoire. Et on espère pouvoir transmettre au mieux les informations et des informations justes pour que tout le monde puisse s'y retrouver.
Merci Émilie Briand, archéologue, conservatrice du patrimoine en archéologie, cofondatrice donc de cette association de lutte contre la désinformation dans les domaines de l'archéologie, de l'histoire de l'art et de l'histoire. Merci et bonsoir. Chaque vendredi dans les Dessous de l'Infox, un journaliste spécialisé dans l'investigation numérique nous explique comment il a procédé pour vérifier une fausse information. Alors aujourd'hui, nous retrouvons à Dakar Monique Gomayag, qui est fact-checkeuse pour l'AFP Factuel, le site de vérification des fake news de l'agence France Presse. Bonsoir Monique.
Bonsoir.
Alors il y a deux jours, vous vous êtes intéressée à une image utilisée sur les réseaux sociaux pour évoquer la récente visite du président congolais Félix Tshisekedi en Israël.
Tout à fait. Cette photo était censée montrer le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et sa femme devant la tombe de Jésus. C'est ce que disait la légende d'une publication sur Facebook. Sur la photo, on voit effectivement le couple présidentiel qui se recueille devant une pierre tombale ornée d'une gerbe de fleurs. Sauf que la pierre tombale en question, ce n'est pas le tombeau présumé du Christ. Elle se trouve en fait dans la crypte du souvenir de la Shoah qui fait partie du mémorial de Yad Vashem à Jérusalem. Yad Vashem, c'est le célèbre complexe construit en hommage aux 6 millions de victimes juives de la Shoah tuées par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale.
Et comment vous êtes parvenu à cette conclusion alors?
Pour le savoir, nous avons d'abord consulté le compte officiel de la présidence de la RDC sur Twitter. On a retrouvé cette même photo avec une légende très claire, je cite, « Le président de la République, accompagné de la première dame, a visité ce mercredi deux lieux incontournables de l'identité de l'État hébreu, le mont Herz et le musée Yad Vashem. » Et sur le site internet du mémorial Yad Vashem, on trouve une photo d'un lieu qui ressemble furieusement à la place où s'est recueilli le couple Tshisekedi. En y regardant de plus près, pas de doute, c'est bien cet endroit. Il s'agit de la crypte du souvenir, inaugurée en 1961. On peut reconnaître en particulier un mur en pierre irrégulière, très caractéristique. La chancelière allemande Angela Merkel s'y est rendue le 10 octobre 2021. Là encore, sur les photos de sa visite, on reconnaît facilement le lieu.
Et le président congolais n'était donc pas sur la tombe de Jésus. Elle existe, cette tombe ?
Pour être tout à fait précis, il faut parler du tombeau présumé du Christ. Selon la religion chrétienne, ce tombeau s'appelle le Saint-Sépulcre et il est situé dans l'église du même nom qui se trouve aussi à Jérusalem. Selon les chrétiens, c'est là qu'a été inhumé le Christ avant sa résurrection.
Mais pourquoi cette visite du président Tshisekedi au tombeau présumé de Jésus fait-elle autant jaser alors ?
Dernièrement, les voyages du président ont suscité des critiques, notamment à cause de ce que cela coûte. D'ailleurs, peu avant son séjour en Israël, l'Observatoire congolais de la dépense publique, une ONG, avait dénoncé et jugé que les voyages de Tshisekedi font partie des causes du dépassement budgétaire de la présidence congolaise. De plus, c'est visiblement moyen pour les critiques de la politique de Tshisekedi de le moquer, d'autant que la RDC traverse beaucoup de problèmes politiques. Mi-octobre, par exemple, des dizaines de milliers de personnes ont marché à Kinshasa pour réclamer la mise en place d'une commission électorale dépolitisée.
Bon, alors, au final, le président congolais s'est-il rendu devant la tombe présumée de Jésus ou pas ?
Eh bien, a priori, non. On a posé la question au porte-parole de la présidence de la RDC. Il a dit non, mais il a aussi tenu à ajouter que même s'il l'a visité, cela ne concerne pas la presse et relèverait du privé. En tout état de cause, nous n'avons pas trouvé trace d'une photo de Félix Tshisekedi au Saint-Sépulcre.
Et quand on parle religion et politique, on est souvent sur des terrains assez mouvants. Merci Monique Ngomayak, fact-checkeuse pour l'AFP Factuel. Bonsoir à Dakar.
Vérification faite.
C'est la fin des Dessous de l'Infox. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à produire cette émission. Attachée de production Florence Pons, documentation Déborah Lepage et réalisation Claude Battista. Merci à vous de rester fidèles à cette émission dont vous pouvez retrouver le podcast sur notre site internet. La semaine prochaine, on parle éducation aux médias. En attendant de vous retrouver à l'écoute des Dessous de l'Infox,
François Bernard
vous dit bonsoir et à vendredi prochain.
L'épopée des musiques noires.